L'Aréopage, l'émission littéraire de Nathalie Bouly.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet Aréopage et bienvenue aussi sur Radio FM+, pour une édition très spéciale consacrée au Salon du Livre de Saint-André de Sangonis, un événement qui réunit lecteurs passionnés, auteurs engagés et curieux de belles histoires. Tout au long de cette deuxième partie d'émission, je vous propose une série de rencontres avec des auteurs présents au Salon, des voix singulières, des imaginaires riches et des parcours inspirants. Installez-vous confortablement, ouvrez vos oreilles et laissez-vous porter par les mots de celles et ceux qui font vivre la littérature aujourd'hui. Et pour commencer cette deuxième émission sur le Salon du Livre de Saint-André de Sangonis, j'ai l'immense plaisir d'être avec quelqu'un que j'aime déjà humainement, mais qui en plus est une autrice formidable. Je suis avec Mireille Pluchard. Bonjour Mireille.
Bonjour à vous.
Mireille, on va parler du dernier livre. Hein,
certainement.
Voilà. Et qui s'appelle donc « À l'ombre de la capitale ». Toujours dans la collection Terre de France, auprès de la Cité. Mireille, vous êtes plus gardoise qu'érotaise quand même.
Hein. Oui, nettement plus. Oui. Sévenol, et je le revendique.
Sévenol, c'est vrai qu'on vous voit souvent avec, en compagnie bien sûr de Christian Laborie, mais évidemment de Dany Rousson, évidemment d'Alain Delage, qui est un homme, voilà, on en parlait tout à l'heure en off, qu'on aime beaucoup toutes les deux.
Oui.
Vous nous parlez un petit peu de l'ombre de la capitale, ce que c'est que la capitale et où est-ce que ça se passe?
Ah ben oui, ça interroge, hein, la capitale. Alors justement, j'étais au Salon du Livre de Toulon en novembre dernier et c'est quoi cette capitale? Mais vous connaissez tous, ce sont des bories en Provence. Voilà, le voile était levé sur ces capitales qui ont, ben oui, ce nom, en Occitanie. Et puis, dès qu'on quitte un peu, qu'on s'éloigne un peu de cette Occitanie, elle se transforme en borie. Elle se transforme aussi en chazelle, en Lozère. Et puis, j'ai eu un lecteur bourguignon qui m'a dit, chez nous, ce sont des casottes.
Ah oui.
Voilà, et je m'étais renseignée, en Italie, dans les Pouilles, ce sont des trulli.
Et ce sont des abris de bergers.
Tout à fait. Jamais ça a été des habitations à proprement parler. Il y avait une personne qui me faisait la comparaison avec les burons de l'Aubrac. Pas du tout. Le buron, c'était l'habitation des buronniers. Et leur résidence d'été et de travail, pour ainsi dire, parce que c'est là où se fabriquait le fromage. Là, c'était les capitelles sont des abris ponctuel, temporaire,
voilà, pour
un
se
gros
protéger
orage,
des gros orages. D'ailleurs, voilà. Si vous voulez lire et tout savoir sur les buronniers, il y a un très très bel, un très bon livre de Delage là-dessus.
Oui, ce sera même une trilogie.
Ah oui, franchement, oui. on apprend tout sur ces buronniers. D'où vous êtes venue? Vous êtes une femme du Nord ou du Sud? Vous êtes vraiment Sévenol, 100%.
100%.
Parce qu'il y en a qui truquent. Hein.
Ah.
Françoise Bourdon, là, qui se dit drônoise, je crois qu'elle est de Charleville à la
elle
base.
Est, elle est de l'Est.
Oui, de l'Est, oui, oui. Voilà. Vous êtes vraiment Sévenol.
Ah oui, oui, oui.
Cette envie de... Vous écrivez depuis tout temps, Mireille?
Non. C'est même pas une envie refoulée qui m'a fait retarder jusqu'à l'âge de la retraite. Je dirais plus facilement le syndrome du nid vide qui m'a amené à l'écriture. Parce que quand les enfants quittent la maison, eh ben, d'un coup, on se retrouve un petit peu perdu.
Et vous aimiez la littérature, ce qu'on
dit
du terroir avant, mais j'aime pas
cette expression. J'ai adoré la littérature, j'ai adoré toutes les littératures, et en particulier les romans historiques, dans lesquels je crois que je me plonge irrémédiablement.
Parce qu'il y a les deux dans votre création.
Oui.
Il y a la partie un peu régionale,
c'est ça,
et puis
voilà.
Il y a la partie aussi très historique.
Oui, je m'assois sur quelque chose de solide, l'histoire, avec un grand H, hein, et la généalogie, puisqu'elle est aussi pour partie mon entrée en écriture. Hein.
Mais c'est passionnant. En plus, la généalogie, c'est quand même la base du travail d'Émile Zola, hein, parce que tous les Rougon-Macquart, c'est quand même voilà. la généalogie.
Exactement. Et j'ai l'habitude de dire que la généalogie est à l'histoire ce que le GPS est actuellement à la géographie.
Exactement. Avec aussi tout ce que ça apporte, comme des fois, de prédestination, hein, qu'on pense des familles maudites. Vous savez qu'il y a beaucoup dans les romans du terroir, ces histoires d'héritage de famille en famille.
Et on le retrouve effectivement. Oui. Hein.
Alors, de quoi ça parle, cette ombre du capital? Ça se passe dans un village que je connais un petit peu.
Ah
mais
oui,
vous avez changé de nom.
Non, même pas. Même pas. Ça s'appelle Corconne. Il faut dire qu'à la base de cet ouvrage, j'ai visité l'ancien moulin à huile de Corconne.
Qui est magnifique.
Il est en fonction. J'ai triché un petit peu avec l'histoire, là, je le reconnais, parce que je l'ai remis en fonction à la période de la Seconde Guerre mondiale, alors que ça y est, il avait cessé déjà cette activité. Mais l'histoire me le pardonne,
oui.
J'espère.
Puis on vous pardonne tout, Mireille.
Ah oui, d'accord. Alors je vais user et abuser.
Il faut.
Alors d'abord, ce moulin curieux, hein, parce qu'il pose questions. Et puis me consacrer aussi à travailler, à écrire sur l'olive. Mm-hmm. Voilà, sa culture, la culture de l'olivier. Ça, c'est un peu dans notre ADN aussi, hein, les Cévennes élargies, voilà, à pleine Cévenole.
Et c'est pas tant connu que ça, parce que c'est vrai que les olives, on peut entrer justement plutôt à Nyons, chez Françoise Bourdon, là-bas.
Oui.
Et c'est vrai qu'il y a une AOP hein,
à Corconne. Ah ben absolument, oui.
C'est vrai
oui.
que quand on parle Cévennes, on pense plutôt châtaigne, oignon, pomme.
C'est ça, oui, oui.
Mais pas tout à fait olive. Or, le Piémont Cévenol est quand même très...
Oui, oui, mais puis il y a la place pour tout, hein, parce que la nature a bien fait les choses. Quand l'olivier n'a plus sa place, parce qu'il ne résisterait pas, il y a le châtaignier qui la prend, et puis après, plus haut, il y a le sapin, et tout ça. Donc, oui, c'est pas moi qui ai inventé la configuration.
C'est pas vous qui avez planté les oliviers à Corconne.
Ah non, non, non.
Et donc ça se passe juste après la guerre de 14-18. Il va y avoir une autre guerre.
Hein, qui se prépare.
Voilà. En définitive, on s'aperçoit qu'entre 18 et 39, ça fait que 20 ans, hein, ça fait pas beaucoup.
Exactement. Hein, on n'a pas le temps de quitter le deuil. Hein, on le verra dans l'histoire. D'abord parce que les gens dans la campagne n'avaient pas des vêtements très fantasy. Et quand on avait un tailleur noir, on le portait à toutes les occasions. Et là, malheureusement, les occasions vont être faciles à trouver entre la guerre de 14 et la Seconde Guerre, 39-40, et puis après cette période oppressante que fut l'occupation, et dans laquelle Corconne, comme tant d'autres villes de la région, d'autres villages, ont tenu un rôle qui n'est pas prépondérant dans l'histoire.
Mais qui tous additionnés
mais voilà, fait l'histoire. Mais qui ont fait justement que les maquis ont pu se constituer. Cette montagne du Kouta a été le lieu de maquis école en préparation des grands maquis que furent celui de Cévennes égale Cévennes.
Comme souvent dans vos livres, Mireille, le personnage féminin, enfin, vous aimez donner énormément de force à ces femmes. Hein. Souvent dans votre livre, le personnage principal est souvent une femme.
Oui.
Quasiment tout le temps, presque.
Oui, souvent. Ouais. Là, je suis en train de changer mon fusil d'épaule. Je suis en train d'écrire et je m'aperçois que subrepticement, l'homme prend la place. Là.
Bon, on en parle dans
je vais le remettre à sa place.
Donc, je conseille chaudement, évidemment, À l'ombre de la capitale. Mireille nous fera le plaisir, bien sûr. On se le promet, mais bon, elle est un peu loin. On est un peu Cévenoles toutes les deux. Elle est vraiment Cévenoles. Moi, je suis du Piémont Cévenoles, quand même.
Voilà.
Mais qu'elle vienne nous parler plus longuement de l'ombre des capitales. Celui-là, il est déjà écrit depuis 2 ans. Donc, je pense que vous êtes déjà dans un autre livre actuellement.
Je suis en écriture. Il y en a un autre qui va sortir en septembre, qui sera une suite dans ma trilogie sur le parfum. Alors, rien à voir les personnages avec le précédent ouvrage, qui était le parfum au Moyen-Âge. Là, ce sera le parfum au XVIIIe siècle.
Et qui se passera alors à Grasse ?
Qui se passe à Nîmes, qui se passe à Grasse, et qui se passe aussi en Basse-Ardèche, avec la présence de l'épisode des masques. Ah, ça, je vous donne une belle énigme.
Voilà, on se retrouve en septembre pour en parler.
Ce sera avec plaisir.
Et merci de votre grande tendresse et votre grande gentillesse toujours,
Merci
Mireille.
À vous.
À bientôt. Au revoir, Mireille Pluchart. Et je vous propose de rester dans les Cévennes, puisqu'après avoir partagé la littérature cévenole avec Mireille Pluchard, je vous propose de parler cuisine. Cuisine avec quelqu'un que vous connaissez tous, puisque tous les jeudis matins, entre 9h30 et 9h40, il vous propose ses recettes de cuisine. J'ai le bonheur d'être avec Paul Pariande. Bonjour Paul.
Bonjour Nathalie.
Paul, cuisine, recette, invention, surprise. Il y en a un qui est tout nouveau.
Il y en a deux.
Deux. Et ben, je vous propose d'en parler.
Alors, de présenter les deux.
Je vous laisse faire.
Il y a un livre que j'ai réédité parce qu'il a été très demandé. Il a eu du succès. Ça s'appelle « La santé est dans l'assiette ». Donc, je parle d'ingrédients que tout le monde connaît, la fraise, la tomate, la courgette et tout. Mais j'explique ce que ça apporte réellement au corps.
D'accord.
Hormis les vitamines. Par exemple, lorsqu'on fait de l'anémie, c'est un manque de fer dans le sang. Donc, le docteur va vous donner de la ferritine. Moi, dans mon livre, je vous indique que les deux ingrédients qui contiennent le plus de fer...
C'est pas les épinards, je suis sûre.
Non. C'est la légende de Popeye. Non, les deux ingrédients, c'est dans l'ordre. C'est le persil.
Donc,
tout le monde connaît, c'est facile à faire et tout. Et deuxièmement, c'est le cresson. Enfin, premièrement, la plus grande teneur de fer, c'est dans le cresson.
Mais Paul, c'est très difficile de trouver du cresson maintenant quand même.
Oui et non.
Ah oui.
Oui. Sur les marchés, quand c'est
encore.
La saison, on en trouve.
D'accord.
Oui.
D'accord.
Donc, et alors le persil, n'en parlons
oui.
pas.
Ça,
on achète
même en mettre
une botte, on le hache, on peut en mettre sur une salade, sur une blanquette, sur un sauté, sur une viande. Donc c'est très facile.
Et donc ça, c'est une réédition alors.
Oui. Le livre, je l'ai un peu amélioré. J'ai mis quelques ingrédients de plus. J'ai enlevé les photos, parce qu'il y avait des photos, des images. Parce que pour le prix de revient...
Ça coûte très très cher.
Voilà, et ça permet d'avoir un prix de vente assez bas. Donc là, le livre est à 12 euros.
Oui, c'est vraiment...
C'est raisonnable.
Oui, tout à fait.
Avec des photos, j'aurais dû le vendre 16 euros.
Et alors, ce qui est bien, c'est que vous parlez du légume en question et puis la petite recette qui va bien avec.
Voilà, et c'est toujours une recette super facile à faire. C'est grosso modo 5 minutes de préparation, pas plus, 5-6 minutes.
D'accord.
Donc c'est fait exprès.
Et puis le deuxième ?
Alors le deuxième, il me tient beaucoup à cœur ce livre parce que j'estime que c'est une véritable bible. Je mets des recettes simplissimes, des recettes super faciles à faire. Vous me donnez deux escalopes de dinde, je vous fais faire une recette semi-gastronomique en 6 minutes montre en main.
Oh, c'est
par
nouveau
exemple.
Ça alors, vraiment, j'ai jamais vu celui-là alors.
Oui. En plus, il y a des trucs et astuces pour la cuisine. Il y a une façon d'accommoder les restes. Je parle des grands chefs, les 5 grands chefs qui ont révolutionné la gastronomie. Et surtout, j'ai mis de l'humour. J'ai mis des histoires drôles, des calembours.
Des dessins drôles aussi. Bonjour, jeune homme.
Des jeux de mots, des choses comme ça. Par exemple, qu'est-ce qu'un M qui joue au foot ? C'est un Mbappé. Voilà.
Voilà, ça c'est bêtises. L'humour, il va le répéter. Il y a un petit garçon qui est venu nous écouter.
Ou alors, comment on fait cuire un poisson dans un piano, l'instrument ?
C'est très simple.
Ouais, on fait dorer la sol.
Ah voilà, ça c'est,
bon,
c'est l'humour.
Et
le slam, vous avez laissé tomber ou vous continuez les recettes en slam ?
Alors, le slam, je prépare 2 livres. Un pour les jeunes, mais pas avec du slam.
Oui.
Par exemple, pour expliquer à un jeune de 6, 7 ans, 8 ans, comment on fait la pâte à pizza, je prends l'accent italien. Ma zedi, ma, je vais vous apprendre la ricetta et tout. Pour la pâte à tarte salée, je parle à la façon d'un clown,
d'accord,
avec une musique qui plaît beaucoup aux enfants, etc. Ensuite, j'ai fini un livre où je slame des recettes que tout le monde connaît, des spécialités, pas des recettes. Par exemple, si je vous dis cassoulet, tout le monde répond le cassoulet. Si je dis cambré, les bêtises. Si je dis Dijon, la moutarde. Eh bien, moi, j'ai pris toutes ces spécialités et je les ai slamées. Je suis en train de les slammer.
Bah, superbe.
Et le livre de recettes que j'ai, là, il me reste, sur une édition de 500 livres, il m'en reste peut-être une 20aine. c'est les recettes écrites et chantées, donc, islamées. Là, celui-là, je ne vais pas le refaire tout de suite. D'accord. Parce que les prix ont tellement augmenté qu'il me faudrait proposer le livre à plus de 25 euros. Ça, je ne veux pas.
C'est pas possible.
Ah, voilà.
Donc, eh ben, merci beaucoup, Paul, en tout cas. Je vous souhaite un joli salon.
Merci, Nathalie.
Pour tout savoir de votre actualité, votre site Facebook, vous allez sur Facebook.
Oui.
Hein, pour savoir, parce que vous faites pas mal de salons dans les jours à venir, dans les semaines à venir.
Voilà, j'ai une page qui s'appelle Les bonnes recettes de Polo.
P-O-L-O.
P-O-L-O, pas P-A-U. Et là, j'explique mon actualité. Je donne souvent des recettes très sympathiques, etc.
Et on vous retrouve tous les jeudis matins aux alentours de 9h40
sur, FM
sur Radio FM+.
Oui.
Merci beaucoup, Polo.
Merci.
À bientôt. Au revoir. Et je vous propose une petite pause dans cette balade littéraire. Une petite pause avec une voix toute fraîche. C'est la voix de Louise. Louise qui a concouru, c'est ça, au petit champion de la lecture.
Oui.
Et tu voulais nous proposer un texte qui est issu du livre de Daniel Pénac. Ah bah, tu vois, celui-là, je ne le connais pas. Autant je connais le cancre, je connais plein de choses, mais celui-là de Pénac, je ne le connais pas. Donc tu vas me le faire découvrir. On t'écoute, Louise.
2 secondes plus tard, tout le monde déboulait dans la classe. Monsieur Marjorel était en train d'imprimer les feuilles d'histoire sur sa Roneo. Il tournait la manivelle et nos ancêtres les Gaulois sortaient de là en violet très pâle.
« Qu'est-ce que vous faites là, les enfants? La récré n'est pas finie. »
Il nous a dit ça, sans se retourner, sans gronder, de sa voix à lui, toujours souriante. C'était notre maître, monsieur Marjorel. Pas de panique, jamais. Notre instit bien-aimé, comme l'appelait Camo quand on avait une permission à lui demander. Mais là, tout de même... Monsieur Marjorel a dû sentir que l'heure était grave. Le silence bien silencieux, parce qu'il s'est redressé et nous a fixé un bon moment.
« Qu'est-ce qui se passe ?»
Camo a regardé ses baskets. « On peut vous poser une question, monsieur ?» Monsieur Marjorel a eu un geste d'impuissance.
« Il n'est pas né celui qui pourra t'empêcher de poser une question. »«
Vous ne nous parlez jamais de la sixième. Pourquoi ?»«
Pardon ?»«
C'est vrai, » dit l'entier. « Vous êtes la seule grande personne qui ne nous dise rien de rien sur la sixième. » Tout le monde nous parle de la sixième. Tout le monde. Les copains se déchaînaient. C'est vrai, ma mère, mon père, ma tante, le beau-père de ma sœur, la voisine du dessous, l'assistante sociale, le docteur Musen, le garagiste de mon grand-père, même le facteur hier matin. La sixième, tout le monde sauf vous. La sixième, la sixième. Un vrai déluge. Au point que monsieur Marjorel dut ouvrir ses bras très grands comme pour arrêter un train fou.
Stop !
On a stoppé.
« Allez vous asseoir. »
On s'est assis. « Bon, qu'est-ce que vous voulez savoir sur la sixième ?» Camo a dit « Tout !» Monsieur Marjorel s'était assis sur son bureau en tailleur, comme quand il nous racontait une histoire. Il nous racontait des histoires tous les samedis matins. Oui, avec lui, les samedis ressemblaient à des dimanches.
« Tout ? Vous allez être déçus !»
Il a regardé Camo, puis nous autres.
« Parce qu'il n'y a rien à savoir sur la sixième, c'est comme le CM2, ni plus, ni moins !» Les mêmes devoirs, les mêmes matières, les mêmes horaires, un peu plus poussés, comme si on allait un peu plus loin sur le même chemin. C'est tout.
Alors pourquoi tout le monde nous bassine avec cette foutue sixième ? A demandé Camo qui parlait couramment argot français, français argot, un héritage de son père qui était mort trop tôt. Geste vague de notre instit bien-aimé.
Vous connaissez les parents, toujours un peu inquiets pour la suite.
C'est pas de l'inquiétude, a crié l'entier. C'est une vraie maladie. Enfin quoi, cette sixième, elle doit bien avoir quelque chose de différent pour les flanquer dans un état pareil. Camo avait appuyé sur l'adjectif « différent » en regardant Monsieur Marjorel droit dans les yeux.
Non, rien, seulement...
Monsieur Marjorel passa sa main dans sa tignasse. Ce n'était pas des cheveux qu'il avait sur la tête, c'était la soirée d'Amazonie. Seulement.
Eh bien, la vraie seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir un seul maître, vous en aurez 6 ou 7. Un pour les maths, un pour le français, un professeur par matière, quoi.
Ça veut dire qu'ils seront 6 ou 7 fois moins savants que vous ? S'exclama le grand lentier.
Bah merci Louise, en tout cas, oui, on sent que tu as du plaisir à lire en tout cas. Tu aimes ça ?
Oui.
Ah, ça se voit. Et tu fais du théâtre, Louise ?
Non.
Tu devrais. Tu devrais. La prochaine étape après la prochaine étape après la lecture, c'est le théâtre. Hein. Elle devrait. Hein. Elle devrait. Formidable. Bah, tu as été une belle représentante, en tout cas. Merci beaucoup, Louise.
Merci
d'avoir lu ce texte pour nous.
Au revoir.
Au revoir. Et après la jolie voix de Louise, qui nous a lu du du PENAC. Je suis en compagnie, j'ai le grand plaisir d'être en compagnie de Jean-Philippe Hardy. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour.
Jean-Philippe, comment décririez-vous votre univers littéraire ?
Alors, il est multiple. Il est multiple et je ne me cantonne à rien de spécial. Ça va du recueil de nouvelles, comme celui que vous tenez dans votre main, aux policiers, aux fantaisies, aux... Dernièrement, j'ai écrit pendant le Covid un livre sur le secret de famille, le secret de ma famille. Alors, juste avant de venir vous voir, j'ai écrit un petit truc pour me présenter. Donc, si vous voulez, je peux vous le lire.
Allez-y.
Donc, ça résume un peu mon parcours. Donc, de la Picardie à l'Occitanie, une migration intérieure de l'attirage au plateau violien. Donc, je suis de Viollefort. Hein. J'habite Viollefort, pardon. Donc, de la ferronnerie à l'écriture. J'ai pas mis mes lunettes.
Excusez-moi. Ah. Eh bien, on peut faire une toute petite pause tant que vous mettiez vos lunettes. On continue le portrait, l'autoportrait de Jean-Philippe.
De la ferronnerie d'art à l'écriture, du fait main à la plume, avec pour volonté de continuer à transmettre. Voilà.
Donc, c'est une jolie définition de vous-même. Donc là, ce sont des nouvelles. Je vois que vous êtes édité chez Nombre 7.
C'est ça, à Nîmes.
Oui, avec Christophe Landès, qu'on salue, puisque nous sommes partenaires avec, entre la radio et Nombre 7.
Donc j'ai été content de trouver cette maison d'édition, parce que le monde de l'édition est tellement compliqué.
Ouais.
J'étais dans une maison d'édition à Paris qui s'appelait Sidney Laurent, qui est malheureusement a fait faillite après le Covid, après les difficultés qu'on connaît.
Et qui a été racheté par Christophe. Voilà. C'est Christophe qui a racheté. Vous êtes en écriture en ce moment, Jean-Philippe ?
Oui, bien sûr. Oui.
Et sur quel sujet ? Alors, sans indiscrétion, on va spoiler un peu.
Mon prochain livre va s'appeler La métamorphose du loup. Et j'en ai un autre aussi qui se passe dans mon village, à Viollefort, qui va s'appeler... Kurtapunka, l'enfant gitan.
Et pour plus vous connaître, est-ce que vous avez un site ? Est-ce que vous avez une page Facebook ? Comment on vous connaît mieux, Jean-Philippe Hardy ?
Eh bien, on me connaît par les éditions Nombre 7.
Vous avez une page ?
Voilà, je ne suis pas un féru des réseaux sociaux. Donc, je sors dans les salons du livre... dans le coin, quoi, voilà.
Il y en a quelques-uns de prévus avant l'été, vous savez. Vous avez une date ou deux à nous...
Là, je suis en train de me renseigner pour Saint-Jean-de-Véda et puis un petit salon à Saint-Martin-de-Londres.
D'accord. Ben, merci beaucoup, Jean-Philippe Hardy. Donc, le livre que nous avons présenté, c'est « La vie est-elle un rêve ou une illusion ?» C'est un recueil de nouvelles.
Voilà, donc, qui sont issues de rêves, de mes rêves, sont retranscrits le matin.
Aux éditions donc Nombre 7. Voilà, si vous voulez tout savoir des rêves de Jean-Philippe Hardy, ben je vous conseille ce livre et puis la petite bio qu'il a fait de lui-même. Merci beaucoup Jean-Philippe Hardy. Au revoir.
Au revoir.
Et après avoir parlé de rêves, je vous propose de retrouver Marie-Josée Guigou. Marie-Josée, je la croise sur pas mal de salons du livre, notamment on s'était vu très rapidement à Figueroles. Vous êtes pas mal présente aux événements que propose Thierry Arquet, qu'on salue, on fait un petit coucou. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver, ben peut-être pour parler de deux choses autour de votre travail. Marie-Josée, déjà, bonjour. Hein, voilà, soyons corrects avant toute chose. Et de parler donc de l'université du tiers-temps de Montpellier, le rôle que vous y jouez peut-être.
Voilà, ben, ça fait une trentaine d'années que je suis à l'université du tiers-temps. Je suis dans le groupe de recherche historique languedocienne. C'est une association qui est au sein de l'Université du Tiers-Temps et qu'on appelle Mémoire Doc.
Vous êtes nombreux dans l'association, hein ?
Oui, on est assez nombreux. On est au moins une vingtaine de chercheurs. Et on travaille sur des sujets les plus divers. Voilà.
Là, dans les mains, j'ai pris celui, alors vous savez que vous êtes sur Radio FM+, la radio protestante de Montpellier. Donc il y a un gros cahier, parce que les cahiers sont d'épaisseur inégale en fonction des sujets, sur les Vaudois d'Occitanie. Et d'ailleurs, on sait à quel point Montpellier était aussi une ville... J'ai fait une très belle émission sur le cimetière protestant, qui est un beau lieu. Oui. Vous intéressez un peu à tous les sujets de Montpellier?
Voilà, tous les sujets de Montpellier. Là, pour les Vaudois, c'est parce que j'avais un arrière-grand-père qui était italien et protestant, et donc ça nous avait intrigués, et donc c'est comme ça que j'ai découvert les Vaudois, bien que je n'avais entendu parler, puisqu'ils sont souvent confondus ou assimilés avec les Cathares.
Avec les Cathares, bien sûr.
Voilà, et donc... et qu'ils ont été martyrisés à la même temps. Mais je ne connaissais pas toute l'histoire.
Mais c'est vrai que c'est une terre, la terre occitane, c'est quand même une terre de révolte. Hein, si on part évidemment des Cathares dans les 1200 et quelques, et jusqu'aux Camisards et autres après, hein, même en finissant par Marcellin Albert en 1907, c'est vraiment une terre de révolte permanente.
Voilà,
un peu.
Tout à fait, c'est vrai.
Avant d'être devenue une plage populaire, il ne faut pas oublier non plus que c'est très récent, effectivement, la démoustication et l'histoire de Palavas, c'est une histoire récente. Aujourd'hui, on est essentiellement touristique, mais c'est récent. Et puis, il y a d'autres choses que vous écrivez. Marie-Josée, vous avez une production très riche. Et là, vous présentez la petite histoire de la RD 59 et de son lido. C'est où la RD 59?
C'est la route de la plage, la route qui a été construite de Maguelone jusqu'au Gros du Roi. Et pendant très longtemps, il n'y a pas eu de route. Ça s'arrêtait à Robinson, la guinguette de Robinson, c'est-à-dire juste après le Petit Travers.
D'accord.
Et donc, entre-temps, il y avait eu la guerre. La route s'est terminée en 1953, jusqu'au Gros du Roi. Et donc, j'en ai parlé parce que, justement, à un moment donné, on a, entre le Petit Travers et le Grand Travers, on a été obligé de supprimer une partie de la route, puisque la dune s'est effacée et à cause de l'érosion, donc à ce moment-là, la guinguette de Robinson a disparu et donc j'ai voulu garder une trace de l'histoire de cette route.
C'est important pour vous cette somme de testament définitif sur notre région qui a tellement changé?
Oui, bien sûr, mais bon, de notre côté, j'étais aussi, mon mari a été le premier banquier de la Grande Motte, donc on a vu construire la Grande Motte, donc je ne peux pas trop, je ne peux pas trop cracher dans la
mesure. Oui, bien sûr, monde qui change de toute façon.
C'est le monde qui change.
Mais c'est bien d'avoir des témoignages de ce qu'était aussi l'autre monde.
Voilà, donc là aussi c'est pareil, on a vu... pousser la Grande Motte, on a vécu tout ça.
Donc pour acquérir les cahiers de l'Université du Tiers-Temps, c'est un peu sur tous les salons, et puis en s'adressant directement à l'Université du Tiers-Temps, je pense.
On a un blog, c'est le blog de Mémoire Doc, et vous pouvez les commander par Mémoire Doc. Sinon, effectivement, là, aujourd'hui, il y a un groupe qui est à Moggio. Il y a un autre qui est à Balaruc, on est assez polyvalent, enfin tout le monde c'est une équipe de chercheurs.
À chaque fois que je vous retrouve sur les salons, vous êtes super parce que vous êtes il y a toujours des gens très chaleureux. Oui. L'année dernière, il y avait une dame à Claret qui était vraiment très très chaleureuse.
Oui, Madame Cordoni,
très chaleureuse. Ouais. Et puis pour tout savoir sur la petite histoire de la route départementale 59, donc qui relie Palavas, Cardon, la Grande Motte au Gros du Roi, eh bien c'est un ouvrage de Marie-Josée Guigou et c'est disponible aux éditions Point Virgule.
Voilà, ouais.
Merci beaucoup Marie-Josée pour ce moment. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À bientôt.
Oui,
au revoir. Après cette super rencontre avec Marie-Josée Guigou qui nous a parlé de son travail à l'Université du Tiers-Temps de Montpellier et puis ce beau cahier donc, qui est sorti en février 2025, c'est le numéro 238 sur les Vaudois d'Occitanie. Et d'ailleurs, on repart dans le policier. Donc on avait eu une première rencontre avec Patrick Porizzi et là je vous propose une rencontre avec quelqu'un qui n'a jamais parlé au micro de Radio FM Plus et que je suis ravie d'accueillir, c'est Laurent Pigeot. Pigeot ?
Pigeot, comme Renaud, mais Pigeot.
Merci beaucoup, Laurent. Vous allez bien ?
Oui.
Laurent, donc votre univers, c'est les enquêtes policières. Je crois que c'est un petit peu votre boulot, non ? Il n'y avait pas un truc comme ça ?
C'est pas tout à fait ça.
Ah, c'est pas tout à fait ça. Allez, dites-nous en plus.
Alors, c'est du polar parce que c'est un flic qui enquête. Ça, c'est... Voilà. C'est un ancien militaire, en fait, qui est devenu flic. Donc, il a les méthodes un petit peu... On va dire la main un peu leste, etc. Donc, c'est un roman beaucoup d'action, d'aventure, beaucoup d'intrigues, bien évidemment. Il y a une part de ma vie, mais ma vie d'avant, parce que je n'ai jamais été flic, moi, contrairement à mes amis qui sont
C'est Frédéric Saumon qui a été flic.
Frédéric, il y a
Fred, bien sûr,
qui sont mes amis et collègues. Moi, j'ai fait l'inverse. Moi, j'étais dans l'armée d'abord. Donc voilà, j'aurais voulu, j'aurais aimé rentrer dans la police, mais j'ai pas pu parce que j'étais blessé. Mais mon parcours initial était l'école hôtelière.
D'accord.
Voilà, mais à mon époque, ça n'existe plus aujourd'hui, mais à mon époque, il y avait le service militaire. Et après mon BTS, je suis parti à Lorient faire mon service militaire dans les RIMA, hein, dans le 3e RIMA, l'infanterie de marine. Et à ma grande surprise, j'y suis resté quelques années parce que ça m'a plu. Et quand j'ai arrêté, ben, je suis revenu par la force des choses. Je ne veux pas me plaindre, mais par la force des choses, je suis revenu au métier de la restauration et je me suis installé, après être prof de cuisine, je me suis installé à la Grande Motte.
D'accord.
En 1996, et depuis, je me suis ancré au fond de la mer et je n'en
parle
plus.
À la Grande Motte.
Voilà.
Et donc, le dernier livre que vous avez sorti, vous pouvez nous en parler un petit peu, déjà son titre
Alors, le dernier est sorti l'an dernier. C'est voilà. Parce que, en fait, le 7e, il a à peu près 6 mois de retard, mm-hmm. mais il va bientôt arriver. Le dernier, donc, qui est déjà édité, il s'appelle Un tir signé. C'est de la fiction. Hein. Ça se passe dans la région, toujours. Hein. Toujours à la Grande Motte, Montpellier, les alentours, Castelnau, Le Crès, enfin bref, dans ce coin-là. Et en fait, c'est une histoire que j'ai vécue au Kosovo, où un sniper nous tirait dessus et visait dans l'œil. Voilà, donc on n'a jamais su pourquoi, parce qu'il s'est fait descendre, le type. Et moi, j'ai pris...
Donc ça, c'est une histoire vraie, Laurent, c'est ça?
Ça, ce truc-là, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais après, moi, j'en ai pris ce que j'ai encore dans la tête. Je l'ai pris et j'en ai transformé en intrigue qui se passe dans le coin. Une personne qui vise dans l'œil, qui tue des gens comme vous et moi dans la rue. Et pourquoi? Mm-hmm. Sauf que moi, il y a une intrigue et on découvre pourquoi à la
pourquoi
fin. Voilà.
Ce goût pour l'écriture policière, déjà, vous étiez lecteur de policiers avant?
Alors, je lisais beaucoup SAS et San Antonio. Ah. Voilà. Donc,
ah oui, il y a une certaine.
Il y a un peu de coca
avec
dans
de la
bouquins.
Verbe. Avec de la verbe. Ouais. Et c'est venu tout de suite.
Non. En fait, c'est venu. Je suis à la SACEM. Je suis musicien, je suis parolier.
Ah, d'accord.
Ouais. Depuis toujours, même pendant l'armée, je le faisais. Et j'écris pour l'impresario de Patricia Cass, ou enfin pour
d'accord.
d'autres, des gens comme ça. J'écrivais. Mais j'ai toujours rêvé d'écrire un roman, du début à la fin. Et au tout début, j'ai voulu, mais pour le plaisir, hein, avec aucune intention de le publier, de l'imprimer, quoi que ce soit, j'ai voulu essayer de raconter un peu ma vie, ma période militaire, ce que j'ai vécu, des choses bien, des choses pas bien du tout. Et des choses passionnantes, des choses que je n'aurais jamais fait. Je ne parle pas de tirer au fusil, mais mm-hmm. des choses que je n'aurais jamais fait dans le civil. C'est-à-dire faire du saut en parachute, de l'escalade, enfin bref, des trucs comme ça. Et j'avais envie de raconter ça, mais je ne voulais pas rentrer dans le gore, dans le machin, etc. Et j'ai encore des trucs dans la tête, moi. Donc, et comme je voulais être flic en sortant de l'armée, je me suis dit, ben, ce que j'ai vécu, je vais le ramener ici et je vais en faire comme si c'était des histoires de flics, enfin des enquêtes. Voilà ce qu'on a vécu, pourquoi un tel, bah, en l'occurrence celui-là, pourquoi une personne va vouloir viser dans l'œil et non pas dans le cœur ou autre chose. Quoi. Voilà.
Bien
et donc
sûr.
Je suis parti là-dessus.
D'accord.
Et je l'écris, et tout bête. Alors ça, c'était le premier, il s'appelle toujours Le Diamant d'Alanine.
Et ça, il y a combien de temps?
Je l'ai écrit en 2012.
Ah oui, d'accord. Ça a une dizaine d'années, quoi, un peu plus.
Ouais, et en 2012, je l'ai foutu dans un tiroir, et j'étais content, je l'avais. Et au moment du Covid, mon épouse, elle m'a dit, si tu tournes en rond à la maison, ça ne va pas le faire, remets-toi à écrire.
Mm-hmm.
Et je ne voulais pas écrire pour écrire et le laisser dans le tiroir. Donc je lui ai dit, écoute, je fais un truc, je l'envoie à 2-3 maisons d'édition, s'il y en a un qui le prend, je continue. Sinon, je remets à la musique, pourquoi pas, etc. Et en fait, il a été pris tout de suite.
Et c'est quelle maison d'édition?
Alors c'est Estella Édition, c'est une maison d'édition à Narbonne.
D'accord.
Alors maintenant, je ne suis plus chez eux, j'ai repris mes droits d'auteur, hein, ouais. parce que j'avais une clause de préférence qui m'interdisait d'en publier d'autres.
C'est moi, compliqué aussi, les petites maisons d'édition.
Voilà, et moi, les autres, c'est ce qui défraie, en fait. Voilà, alors que... Et je l'ai écrit, c'est celui-là, en 2012, qui, et c'est pareil, il y a beaucoup d'anecdotes de mes périodes militaires, enfin, des trucs rigolos même, hein, parfois. Hein, je ne sais pas, moi... au Tchad où je suis tombé les fesses sur un cactus, quoi, par exemple. Ouais, bah, c'est vrai. Bah, c'était ça ou une balle, hein, donc on n'avait pas le choix. Et je raconte ça, mais je tourne ça à la dérision, voilà, et tout. C'est plein de petites anecdotes comme ça. En même temps qu'il y a l'enquête policière.
D'accord. Voilà. Et là, maintenant, vous êtes édité chez qui, alors, Laurent ?
Ah, maintenant, comme mon ami Fred Bologzen, voilà. Je suis auteur indépendant et je suis très fier de l'être.
Ça vous fait plaisir. Par contre, du coup, et c'est là-dessus qu'on va se quitter, il y a sûrement des dates de salon pour vous rencontrer, parce que le problème des petites, des auto-édités ou des petites maisons d'édition, c'est la diffusion. Donc, les salons, c'est quand même assez indispensable, non ?
Alors, les salons, moi, je fais beaucoup de librairies.
Des librairies aussi ?
Ouais, des librairies, des dédicaces en grande surface, etc. Ouais. Parce que mon premier éditeur, si vous voulez, le seul d'ailleurs, je ne vais pas lui jeter la pierre, c'est lui qui m'a donné envie, puisqu'il a cartonné le premier. Donc, il m'a donné envie de le faire. Sauf que je ne voulais pas que ça me coûte de l'argent, je voulais au moins que ça me défraie. Mais je ne suis pas gourmand, j'ai une très bonne retraite, je n'ai pas besoin de ça pour en vivre, je ne le fais pas pour bouffer. Par contre, je le fais parce que, et je continue de le faire parce que j'ai mes fans.
Oui, voilà, au salon d'Aigremont, vous aviez beaucoup, beaucoup de gens qui... Ça avait très bien marché, Aigremont.
Ah ouais.
Mais pour vous, pour les gens qui ont entendu ces quelques mots et qui voudraient mieux rentrer dans votre univers et acheter vos livres, c'est quoi le chemin alors ?
Eh bien, alors, on les trouve à la librairie de la Grande Motte, bien évidemment, puisque je fais des salons, des dédicaces régulièrement. Mais le mieux, c'est de taper sur Internet. Je ne vais pas vous donner le site parce qu'il est compliqué, mais si vous tapez Laurent Pigeot, mon nom, Les Aventures de Marc Mercier, vous tombez sur ma page, ou Facebook, ou mon site. Voilà. Et sur mon site, il y a d'abord une boutique en ligne, il y a la présentation des quatrièmes de tous mes romans, et puis il y a une page dédiée aux dédicaces, et j'essaie de la tenir à jour pour 2 mois.
Ben, merci beaucoup. Donc Laurent Pigeot, alias Marc Mercier, ou Marc Mercier, alias Laurent Pigeot. Vous faites ça dans l'ordre que vous voulez. Merci beaucoup, en tout cas, de cet entretien. Et puis à très bientôt pour parler plus longuement de vos livres sur Radio FM+. À bientôt,
merci.
Laurent.
Merci. Au revoir. À bientôt.
C'est bien parce qu'au salon du livre, on passe de l'univers du livre régional au policier à la cuisine. Et là, je suis en compagnie de Francine Pujol et qui a une association. Pouvez-nous en parler un petit peu, dire son nom déjà et puis nous en parler un peu.
Donc je suis présidente de l'association Champs Pays, pédagogie institutionnelle. Donc en fait, c'est simplement un regroupement d'enseignants qui pratiquent dans leur classe, dans des écoles publiques ou des écoles. Il y a pas mal de copains, copines aussi qui sont dans des écoles occitanes, les écoles calandrettes dans le département. Et on travaille en fait avec les techniques freinées et la pédagogie institutionnelle de Fernand Houry. Voilà. Et ça fait des années, moi personnellement, que je travaille comme ça. J'ai intégré le groupe qui s'appelle Champignon. René Lafitte, il avait...
C'est Champ, C-H... AMP.
Voilà.
Plus loin, PI.
Voilà, c'est ça. C'est dans le grand
champ. Parce que quand on entend chant, on pourrait entendre le chant vocal.
Oui, ça peut l'être aussi. Il y a des variations. Et donc, en fait, René Lafitte avait fait un groupe qu'il appelait le Champignon à Béziers et qui réunissait des enseignants. C'est un peu un endroit où on vient parler de sa pratique, quoi. On pourrait appeler ça un groupe d'analyse de pratique professionnelle, en fait. C'est l'idée que quand on travaille un peu différemment, c'est bien de ne pas rester seul. Ça, c'est vraiment un maître mot. Donc, on crée comme ça des petits groupes. Dans l'Hérault, par exemple, actuellement, il y en a 4.
D'accord.
Donc, il y a un groupe à Montpellier, un groupe à Béziers, un groupe à Pézenas. Et ici, qu'on a appelé Cœur d'Hérault, parce qu'on se déplace dans les écoles, dans les lieux de travail.
Et l'intérêt pour vous de participer, s'il y en a, ou le bonheur ou la joie de participer à ce genre de salon, c'est important, c'est pour vous inscrire dans la ville, c'est...
Alors moi, j'habite ici, donc bon, du coup, ça paraissait un peu simple de pouvoir...
Parce qu'il y a un livre quand même de disponible.
Oui, c'est ça.
Peut-être en parler du livre,
tout
d'ailleurs.
Tout à fait. Alors, il est sorti en début mai 2024 et c'est un recueil. Alors, ça s'appelle Moisson. Donc, on a fait les moissons.
Et dans les champs,
du
les champs moissons.
Pays. Bon, c'était un peu facile, je dois dire. Et là, celui-là...
Mais tellement tentant.
On n'a pas résisté. Et celui-là regroupe, en fait, des textes qui parlent plutôt des outils, des institutions, de façon assez concrète, de comment on travaille en classe. Donc, comment on travaille en classe, on fait un journal, par exemple, avec les enfants. Les enfants écrivent leurs propres histoires. On apprend à lire avec ces histoires-là et pas avec un livre, un manuel de lecture. Voilà. Donc, il y a des petites différences. On s'évalue au niveau de ses compétences en français, en maths, en tout, avec des ceintures, un peu sur le principe du judo. Donc, les enfants savent que, voilà, pour grandir, pour acquérir la ceinture suivante plus haute, eh ben, j'ai ça à travailler.
D'accord.
Et on la décline aussi au niveau du comportement, ce qui permet de pouvoir s'entraider aussi avec les enfants. Il y en a qui sont plus « petits », entre guillemets, et d'autres plus grands. Mais on n'est pas que petit ou que grand. On peut être petit en maths et grand en comportement, ou l'inverse. Et
bien voilà. Sûr.
Donc, ce sont des outils qui... Enfin, moi, j'ai travaillé pendant 40 ans avec, et ce sont des outils quand même, il me semble, qui permettent de mieux... d'abord, de gérer un groupe, chose dont l'éducation nationale ne parle jamais, la gestion du groupe, quand on apprend à lire, écrire et compter. Il faut aussi arriver à gérer un groupe de 25, 30 élèves, enfants. Et puis aussi, de tenir compte de la singularité de chaque enfant, et ça, je crois que ça devient en plus quelque chose de plus en plus prégnant, peut-être, dans les temps
qui courent.
Voilà.
Francine, donc, pour en savoir plus sur l'association, on tape Champ...
On tape Asso Champ Pays.
Oui.
Je crois que c'est... Il faudrait que je l'ai sous les yeux. Asso Champ-Pays, mais si on met Asso Champ Pays...
On va tomber dessus en allant dans le moteur de recherche. Voilà, .com.
Et il y a des textes, il y a des...
Il y a tout et qui explique le plus longuement. Et, voilà. Je vous propose un jour de prendre rendez-vous à la radio, puis de venir nous en parler longuement de cette association qui a l'air, ma foi, fort utile. Voilà, et fort complémentaire de l'éducation nationale. Merci beaucoup, Francine.
Merci.
À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Merci. Et pour finir ce beau festival... du livre de Saint-André de Sangonis, après avoir eu tous les auteurs, sauf une, parce qu'elle est timide et qu'elle ne veut pas parler. Mais on va lui faire un petit coucou à Marie-Pierre Lecomte, quand même. Voilà. Ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas parler que nous, on ne parle pas d'elle. Elle ne nous entend pas. Et puis aussi un petit clin d'œil à la librairie qui accompagne cet événement, qui s'appelle Le Coin de la Page, qui est dans la zone Cosmo, à Gignac. Voilà. Il faut aller aider les petites librairies. Il y en a... à Saint-Gély-du-Fesque, il y en a à Castelnau, toutes ces petites librairies qui s'installent. C'est souvent des filles, d'ailleurs. Hein. À Saint-Mathieu-de-Tréviers, c'est Céline. Et là, je ne sais pas si elle nous entend non plus. Non. Voilà, on lui fait un petit coucou à la librairie du Coin de la Page. Et pour finir l'émission, eh bien, je voulais vous proposer de rencontrer deux sœurs. On peut dire que vous êtes sœurs avec Mariko.
Alors, Mariko. Mariko avec Mimi Chan, oui.
Voilà, toutes les deux. Et puis... Laetitia Grose, voilà, qui est dans la même tablée. Voilà, quand on rentre, il y a une belle trois tables avec quand même des univers un peu différents dans les couleurs. Hein, mais elles vont nous raconter tout ça pour finir l'émission. Bonjour à toutes les deux, déjà.
Bonjour.
Merci de vouloir bien clôturer cette émission. Il y a beaucoup de monde à votre table. Depuis le début, j'ai remarqué, c'est très attrayant. Quel est votre univers littéraire, Mariko ?
Alors, moi, je fais beaucoup de jeunesse. Et des trucs assez féminins aussi. Donc, comme j'ai des univers assez colorés, déjà, ça attire l'œil des enfants, des parents. Souvent, les parents, j'ai une BD qui s'appelle Les Crottes de nez contre-attaque. Donc, en fait, ça les fait énormément rire. Donc, il faut absolument qu'ils pointent le titre à leurs enfants en leur disant « Ah tiens, ça, c'est pour toi. » Bon, par rapport au nombre d'enfants qui... mangent leurs crottes de nez. Voilà. Et puis après, quand ils commencent à regarder un peu mieux, ils voient aussi que j'ai des trucs pour adultes. Voilà. Et qu'après, ça commence à dériver vers les œuvres que j'ai en commun avec Mylène et avec Laetitia. Et notamment les jeux d'oracle que j'ai fait avec Laetitia.
Vous êtes très présente sur les salons de la région. On vous voit quand même assez souvent. C'est important pour vous d'aller justement comme ça au contact des clients. Des lecteurs, hein, voilà. C'est des clients aussi, mais c'est d'abord des lecteurs.
Oui, parce que moi j'ai commencé chez des petits éditeurs, donc c'est pas vraiment évident de se faire connaître quand on est né chez des petits éditeurs. Et là, de plus en plus, on est obligé de passer en auto-édition parce que ces éditeurs nous lâchent parce qu'ils arrivent plus à être rentables. Donc en fait, le meilleur moyen de se faire connaître et de faire découvrir nos livres, en fait, comme on peut pas trop être en librairie ou ailleurs, c'est vraiment de faire des salons, des festivals BD.
Le problème de l'auto-édition, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de visibilité en librairie. Déjà, les petites maisons d'édition, que je dirais édition à compte d'auteur presque, hein, je ne sais pas si vous voyez lesquelles je veux parler.
Hein. Ben, c'est un ce que j'ai derrière moi. Et bon, voilà, c'est...
Ce qui soit vous oblige à payer 1000 balles pour une correction qu'ils ne font pas toujours, ou qui vous oblige à acheter 40 ou 50 livres des pubs, ce qui n'est pas non plus la vocation d'un éditeur. Mais c'est vrai que devant aussi le nombre de gens qui veulent écrire, c'est compliqué aussi de se donner une...
Oui, et au final, on s'est rendu compte, nous, assez vite, que quitte à devoir faire tout le travail de communication autour de nos livres et tout ça, et vu le peu de travail que fournissent ces soi-disant éditeurs avec les libraires, on parlait du coin de la page, moi j'aurais adoré pouvoir travailler avec eux aujourd'hui. Mmh. Et ça n'a pas été possible, pas possible, à cause des conditions des éditeurs, qui sont pas acceptables, en fait, pour des libraires et même pour nous auteurs, en fait.
Et toute la chaîne du livre après est pareille, hein. Je sais pas si, mais par exemple pour s'inscrire à Occitanie Livre et Lecture, enfin à la CNL, c'est pas possible non plus parce qu'il faut avoir un compte, il y a plein de choses. Tout est compliqué pour les auto-éditeurs. Les auto-édités, c'est vrai qu'il y en a de pas bonne qualité, il y en a d'excellente qualité, mais la difficulté pour se donner des visibilités après, c'est terrible.
Alors moi, comme j'ai quand même commencé par être édité, je suis référencée sur Occitanie Livre et Lecture, et c'est vrai qu'au début, c'est moins le cas maintenant quand même, parce que dans les salons et dans les festivals BD, on commence à reconnaître la place des auto-édités, parce que il y a quand même une compréhension que c'est pas auto-édité, c'est pas un signe de mauvaise qualité. Voilà. Et à l'inverse, il y a des petits éditeurs qui éditent un peu tout et n'importe quoi.
Et c'est même peut-être l'avenir. Enfin, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a eu le prix Goncourt étudiant ou lycéen. C'était une fille auto-éditée qui, évidemment, tout de suite a été récupérée après par les gros noms de l'édition. Mais voilà. Laetitia, c'est quoi votre univers à vous ?
Alors moi, mon univers, c'est tout ce qui est fantasy. Mes romans, c'est du style un petit peu Harry Potter, Eragon, Le Seigneur des Anneaux. Ça parle de sorciers, ça parle d'elfes, ça parle de magie.
Et aucune des deux ne fait dans la romance fantasy ?
Non.
Non, pas du tout.
Il y a de la romance dans mes romans, mais ce n'est pas le sujet principal.
Parce qu'il y a un gros salon du livre, avant d'Argue, quand même, bientôt. Aucune des deux n'en fait partie ?
Non.
Parce qu'avant d'Argue, il y a le salon de la New Romance. Vous avez. Moi, ça m'étonne à chaque fois. Vous savez, la romance fantasy, par série 12, là, les filles, elles partent avec en ayant acheté les 12, quoi.
Oui.
Vous y avez jamais été ? Non. Allez faire un saut quand même, parce que c'est voilà, impressionnant à voir.
On connaît le salon, effectivement, mais on n'y a jamais fait un saut. Et c'est pas vraiment trop nos univers, non. Ni en tant que lectrice, ni en tant qu'auteur. C'est vrai qu'on pourrait se dire, oui, surfer sur la vague, mais on aime...
C'est pas notre style.
Voilà, et on aime faire des choses qui nous plaisent d'abord à nous, voilà.
Alors, qui des deux peint, qui des deux dessine, qui des deux écrit entre Mimi et Mariko, parce que toutes les deux vous travaillez complètement ensemble.
Oui, alors en fait on dessine toutes les deux.
D'accord.
Et sur la BD Redaille, en fait c'est une BD, c'est vraiment le premier projet qu'on a fait ensemble. C'était une BD que j'avais imaginée moi, mais je trouvais que le style graphique de Mylène s'y prêtait mieux. Donc en fait j'ai fait tout le scénario, le storyboard, et c'est elle qui l'a illustré. Actuellement, elle travaille sur une autre BD avec des petits champignons, mais à son rythme, parce qu'on a toutes des activités professionnelles annexes qui nous laissent peu de temps, en fait, pour dessiner, écrire.
Alors, Mimi Chan, c'est maître, non, en japonais ? Ça veut dire quoi, Chan ?
Chan, c'est mademoiselle, c'est un petit surnom, c'est...
Elle nous rejoint.
C'est un peu affectif, Chan, en fait.
Moi, j'ai une fille, c'est Léo Chan. Voilà, c'est des fans de littérature et de manga qui s'appellent Chan.
Oui, tout à fait.
Mimi, elle a un rhume, Mimi.
Petite allergie aux fleurs, ouais.
pour découvrir votre univers, donc Mimi, bonjour, hein, elle nous a rejoint. Elle nous a rejoint pour le mot de la fin, quasiment. Non, j'aimerais quand même, pour les auditrices, les auditeurs, comment connaître votre univers à toutes les trois ? Est-ce que vous avez un site séparé, commun, peut-être, Laetitia, à part ? Si vous pouvez nous donner toutes les infos pour aller à votre rencontre.
Oui, pour moi, c'est essentiellement par ma page Instagram, ma page Facebook. On peut retrouver aussi mon portfolio sur Internet. Le plus simple, c'est d'aller dans la barre de recherche Google, de taper mon pseudo, Mimi Chan.
Mimi, M-I
M-I-E, Chan.
Alors, M-Y-M-I-E, ah. Et plus loin, Chan.
Voilà, c'est joli en plus comme nom. Laetitia, aussi, vous avez un site
Pareil, c'est une page Facebook et une page ouais, Instagram. Ouais. Et c'est tout simplement mon nom et mon prénom à mettre dans la barre de recherche.
D'accord.
Voilà. Alors, moi, j'ai un blog BD qui s'appelle The Blog BD de Marico.com, mais c'est vrai que essentiellement la communication c'est sur les réseaux sociaux et principalement par ma page Instagram. Donc si on tape Marico BD dans Google, on me trouve facilement.
Et dessus, on peut commander vos livres sur vos pages respectives, voilà.
C'est oui, super. Voilà, en nous faisant des messages privés.
Ben merci d'avoir conclu cette émission en direct du salon du Festival du Livre de Saint-André-de-Saint-Gonis. Alors, comme vous travaillez, ça va être difficile de vous inviter à la radio, mais si on arrive à trouver un petit créneau pour parler plus longuement de votre travail sur les ondes, ça me ferait très plaisir de vous inviter.
Eh ben, merci beaucoup. Merci,
on trouvera un moment en tout cas.
Merci.
Eh ben, je remercie tous les auteurs qui ont eu le plaisir, que vous avez eu le plaisir d'entendre aujourd'hui en direct du Salon du Livre de Saint-Gonis, qui était un moment de partage unique, une occasion vraiment de faire vivre les mots et surtout de donner envie de lire, parce que c'est important. Avec les enfants. Là, vous avez une petite fan, hein, Louise.
Oui.
C'est vous, Mimi, hein, qui avez dédicacé.
C'est ça.
Louise, il faut qu'elle fasse du théâtre. Hein. Et puis, bien sûr, merci également aux organisateurs, à Gaëlle, qui n'a pas voulu parler, mais qui était là toute la journée, à Serge, qui a ouvert le débat, à Pierre, bien sûr, qu'il faut qu'il me rende mon fil électrique, Pierre. Voilà. Et on se donne bientôt rendez-vous à la médiathèque, hein, qui va ouvrir ici, qui va être un très beau lieu. Et puis, à très bientôt, à tous les visiteurs. Et écoutez-nous sur Radio FM Plus dans Aéropage. À bientôt pour d'autres découvertes littéraires. Au revoir.
L'Aéropage, l'émission littéraire de Nathalie Bouly pour FM Plus.